Voilà, je vais maintenant laisser la place à Jean-Philippe qui va partager ce que Dieu a mis sur son cœur. Que Dieu agisse dans nos cœurs par sa parole et que son esprit fasse fructifier ces graines qui seront plantées. Merci Jean-Philippe.
C'est incroyable ce que Dieu peut faire quand on décide de lui donner nos vies et du temps et de vraiment investir. Alors, il n'y a pas forcément qu'une école de formation de disciples qui fait ça. Mais je crois que moi, ça me rappelle encore une fois combien on a besoin de Dieu dans nos vies, de passer du temps avec lui, de le chercher, d'avoir des gens qui nous enseignent. J'ai découvert ces vidéos avec vous, hein, et c'est vrai que ces étudiants ont été beaucoup changés, transformés, et en l'espace de pas long, quoi. C'est 3 mois. Donc voilà, c'est un petit encouragement pour commencer. On devrait tous, je crois, chercher Dieu beaucoup plus, et encore plus peut-être maintenant dans cette saison de vie où il y a tellement de choses qui se passent. Florence commençait par prier au tout début. Elle disait qu'on puisse se positionner dans cette saison. Et en fait, le titre de mon message ce matin, que j'ai l'impression que Dieu me donnait, c'était le positionnement du chrétien. Alors j'espère pouvoir donner une partie de réponse. Je n'ai pas la prétention de dire voilà toutes les clés, voilà, j'ai tout compris, parce que du tout, je crois que nous, à Gem ici, comme je dirais, le reste du monde, le reste des églises, le reste des chrétiens, on cherche, on se demande ce qui se passe, on se dit mais comment est-ce qu'on va vivre ça en tant qu'église alors qu'on est en vidéoconférence, que les relations sont si importantes les uns avec les autres. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui d'être chrétien? Qu'est-ce que Dieu fait? Je me rappelle, peut-être certains d'entre vous ont parlé de Tom Bloomer, qui était le provost de l'Université des Nations pendant beaucoup, beaucoup d'années. Il a eu une prophétie pas longtemps avant le début de la pandémie où il sentait que Dieu disait il faut que tu dises aux gens qu'il y a une crise économique qui arrive. Et quand c'est arrivé, une crise économique et aussi le fait qu'on allait être élagué, que Dieu allait couper des fruits, qu'il allait avoir un travail profond. Et au moment où c'est arrivé, il a dit ouais, je l'ai senti, je l'ai dit, mais je ne sentais pas que ça allait venir au travers d'une pandémie. Et je crois qu'on l'a pas vu venir, en fait. On a tous été surpris, ça s'est venu tout à coup, on a senti que ça venait de Chine, ça touchait d'autres pays, on s'est dit, oh là là, ça va nous venir dessus, ça va pas venir, et tout à coup, on a tous été pris dedans, et le monde entier, ou presque, est à l'arrêt. Et puis cette année a été, en tout cas pour moi, je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que ça, y a tout qui a changé de vitesse en même temps. Il y a avec ça en plus des rumeurs de conspiration, de contrôle généralisé. Est-ce que le passeport du vaccin, ça va devenir cette nouvelle identité virtuelle dont on parle aussi? On va devoir voter bientôt là-dessus, hein, cette identité électronique. Qu'est-ce que ça parle de ça par rapport à la Bible? Comment est-ce qu'on s'aligne? La société perd pied, ils viennent d'accepter les mariages homosexuels, le changement de sexe à l'âge de 16 ans, on n'a même pas voté là-dessus. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a tout à coup, il y a tout le fondement de sur quoi on vivait, de comment on vivait, en tout cas au niveau des valeurs, qui a complètement explosé. J'aurais bien voulu pouvoir prendre une photo, mais j'étais... Au niveau monétaire dans le monde, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la crypto-monnaie que Facebook est en train de sortir. Et ici, à Genève, j'étais dans la voiture. Non, je marchais dans la rue, pardon. Et puis, je vois un tram qui passe avec 4 images. La première image, elle a un dollar qui est bien dessiné. Puis, au fur et à mesure des images, le dollar brûle de plus en plus. Et à la fin, ça marque un C. Et puis, ça marquait demandez-nous des conseils pour la crypto-monnaie. Et moi, j'étais là, c'est resté sur moi en me disant, mais qu'est-ce qui est en train de se passer, quoi? Il y a vraiment un changement à tout niveau. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire de se positionner dans cette société où on se demande si vraiment les gouvernements, ils ont un agenda secret de contrôle ou pas? Notre héritage judéo-chrétien est défié, les fondements de la société sont défiés. La démocratie est menacée, on voit ce qui se passe aux États-Unis, est-ce que ça va peut-être même partir en guerre civile? Ah, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Je suis là, et puis... Et puis, ce serait tellement facile de tomber dans le découragement, de tomber dans le c'est la fin du monde, on en a tous fini, alors que peut-être pas du tout. C'est pas la première fois qu'il y a des gros changements qui se passent dans le monde. J'ai un ami qui regardait, qui avait fait un Google, une recherche Google, et puis qui me disait, ouais, j'ai regardé les pires moments de l'humanité. Il y a eu des temps où il y a eu une pandémie comme maintenant, mais en plus, il y a un volcan qui a explosé par-dessus, et donc il y avait un nuage noir, il y avait des millions de morts, les gens, ils n'avaient plus le droit de sortir. Donc voilà, est-ce que c'est la première fois qu'on vit ça? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Et qu'est-ce que Dieu nous dit de faire, en fait? Et comment est-ce qu'on se positionne là-dessus, personnellement, en tant que famille, en tant qu'Église? Et puis, j'ai l'impression que Dieu me disait, mais pourquoi est-ce que tu ne parles pas de Jérémie 29? Et puis, je vais vous lire Jérémie 29, des versets 4 à 14. C'est un moment où Babylone a pris Israël en exil, mais il n'a pas juste pris n'importe qui en Israël. Babylone a pris les leaders, les intellectuels, les artistes, parce que Israël ne voulait pas se plier au joug de Babylone. Et donc, ils se sont dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer, on va prendre tous ceux qui ont la connaissance, qui ont le leadership, et puis on va les prendre chez nous pendant assez longtemps pour qu'ils se soient culturellement adaptés à notre manière de faire, les renvoyer à la maison. Et puis à ce moment-là, ben, naturellement, tout ce qui se passe chez eux va être beaucoup plus facile au niveau de l'influence, du contrôle de Babylone sur Israël. Et puis voilà la lettre que Dieu envoie justement à ses leaders, à ces gens qui sont en Israël. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Jérémie donc 29, 4 à 14. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins, mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai emmené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom, je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous, j'accomplirai à votre égard ma parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez, je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Et je vous ramènerai dans le lieu où je vous ai fait aller en captivité. Que de belles promesses qui vont avec une manière de se positionner. Qu'est-ce que Dieu il dit à Israël dans ce moment où ils sont en exil, dans une culture qui n'est plus la leur, où on essaie de forcer sur eux une manière de penser, de forcer sur eux une manière de fonctionner, dans toutes les sphères en fait de qu'ils étaient, dans leur famille, les dieux qui étaient loués en ce temps à Babylone, comment on gérait les finances, le marché. Ils sont dans un système qui tout à coup n'est plus le leur, qui n'est plus connu d'eux. Et qu'est-ce que Dieu leur dit? Il leur dit, c'est la fin du monde, cachez-vous, creusez des trous. Et soyez sûr qu'on ne vous trouve pas. Non. Dieu, il dit, bâtissez des maisons, habitez-les, plantez des jardins, mangez des fruits, prenez des femmes, donnez des femmes à vos enfants, faites des bébés, multipliez. Dieu leur dit, dans un temps comme celui-là, qui peut être long, 70 ans, on a parlé au tout début de cette pandémie, que peut-être vous n'avez pas entendu ça, mais en tout cas, nous, on a beaucoup parlé du fait que ce n'était pas juste un orage et une tempête de neige qui passait, mais que c'était plutôt un long hiver froid. Et en fait, hier soir, j'étais avec des amis, on allait faire de la raquette et on s'est pris une tempête de neige en Haute-Saint-Sergue. Et bon, déjà, moi qui ne suis pas très bien entraîné, je suis arrivé en haut. Voilà, j'ai fait les 500 mètres entre Thierry et ma maison ce matin en voiture parce que je n'y arrive pas à marcher. Mais je me suis dit, oh là là, en fait, si le long hiver froid, il est comme ça sur du long terme, bon, déjà, est-ce que je suis prêt? Et puis, voilà, j'ai une maison où rentrer, en fait. Heureusement, gloire à Dieu, c'est comme le patin. Le meilleur moment, c'est quand on enlève les patins en sortant de la patinoire. Là, c'était aussi ça. Le meilleur moment, c'était d'être dans la voiture, d'enlever les raquettes, d'enlever l'ensemble de neige, puis de se dire... Mais réellement, dans la saison dans laquelle on est, on ne va pas enlever les patins. On reste dans l'hiver long et froid. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour tenir ferme? Et j'ai l'impression que ce texte est clair. Construisez des foyers. Bâtissez vos maisons. Implantez-vous et vivez. Et faites tout ce que vous pouvez pour vivre du mieux possible. Priez pour Babylone. C'est qui Babylone? C'était les ennemis. C'est dur de prier pour ses ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Matthieu 5. Est-ce que Dieu ne nous appelle pas à vivre dans ce temps, à faire tout ce qu'on peut pour se développer, pour continuer de faire des bébés, se multiplier, avoir des maisons dans lesquelles on invite des gens, de créer la communauté, de planter des jardins pour avoir à manger et partager avec ceux qui ont faim, d'être ceux qui prient pour ceux qui nous persécutent, ceux qui peut-être essayent de forcer un contrôle ou de forcer des choses sur nous? Est-ce que ce n'est pas là le positionnement du chrétien d'aujourd'hui? De se dire, je suis dans un long hiver, je vais vivre comme Dieu me dit de vivre. Je vais refuser d'être découragé. Je vais refuser d'être fatalistique, si c'est même un mot français, de tomber dans le fatalisme. C'est quoi le mot? Fatalisme. Et de me dire, c'est la fin du monde, on est tous foutus, ils vont nous mettre des puces derrière la tête. Peut-être qu'ils vont essayer, je ne sais pas. Je ne suis pas là pour faire des prophéties bizarres, mais on sait qu'un jour ou l'autre, ça risque de se passer. Mais je crois que ce que Dieu nous dit, c'est qu'aujourd'hui, on est des ambassadeurs. Il le dit, hein, au verset 4, « Je vous ai envoyé à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. » C'est Dieu qui les a mis là. C'est Dieu qui nous a mis où nous sommes aujourd'hui. Et je crois vraiment qu'on doit pouvoir vivre comme des ambassadeurs. Alors, qu'est-ce qu'il fait un ambassadeur? Il connaît la langue de là où il est envoyé. Il crée des ponts avec la nation dans laquelle il est envoyé, mais jamais, 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 il oublie la langue de où il vient et des valeurs de la nation qui l'envoie. Et aujourd'hui, je crois que plus que jamais, on doit être des ambassadeurs de paix, de joie, d'amour, d'espérance dans notre manière de vivre, dans notre caractère, parce que ce n'est pas chez nous. Dieu nous dit, on n'est que passagers sur cette terre. Et même à la fin de ce texte, il dit, je vous ramènerai. Un jour ou l'autre, oui, Dieu viendra nous chercher. Gloire à lui. Peut-être que plusieurs comme moi, on attend ce moment. Mais pourtant, aujourd'hui, il nous dit, vous êtes mon ambassadeur. Vous êtes mes ambassadeurs sur cette terre. Et ce n'est pas le moment de se morfondre sur un canapé ou de se dire, c'est la fin du monde. Parce que personne ne le sait. Et la seule manière de bien vivre ce moment-là, ben, c'est de faire ce que Dieu nous dit au moment où il nous dit de le faire. Il y avait, j'ai beaucoup bataillé à l'idée d'avoir mes enfants qui grandissent dans la société comme elle est en train de se développer. J'ai eu pas mal de peurs en fait, et de craintes qui étaient en moi pendant longtemps. Je disais, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je protège mes enfants? Comment est-ce que je les prépare? Comment est-ce que je vis ça? Et il y avait des angoisses, presque vraiment des angoisses où que j'ai dû déposer. Et puis, j'ai recommencé à lire. En fait, j'ai lu le premier, je n'ai pas recommencé à lire, c'est pas vrai. J'ai lu le premier dévotionnel de Oswald Chambers, que vous connaissez peut-être de l'année, qui parlait justement de faire confiance à Dieu. Et puis, il y a un moment où il dit, mais si tu as peur d'obéir à cause des conséquences que cela a sur les autres autour de toi, ou sur tes proches, ou tes enfants, ce que tu dis vraiment à Dieu, c'est que tu ne lui fais pas confiance. C'est que lui, il ne sait pas ces choses-là. Et ça m'a beaucoup défié de pouvoir me dire, OK, je dépose ces choses, je sais que tu as mes enfants dans tes mains, je crois que même si la persécution vient, c'est possible qu'ils souffrent, mais toi, tu sais ce que tu fais, tu es souverain. Aujourd'hui, toi, tu sais mieux, je vais te laisser, et moi, je vais faire ce que tu m'appelles à faire. Je vais être, comme Thierry, le bon voisin, je vais vivre ce que tu m'appelles à vivre dans cette saison. Je crois que Dieu nous appelle à plus, en fait. J'ai été défié par un autre message qui était de Timothy Keller, qui parle de comment rester vert dans toutes les saisons. Et il va dans le psaume 1, que je vais lire avec vous, les versets 1 à 3. Et je crois que ça va dans la lignée de ce que je dis ce matin. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Voilà une invitation à vivre dans la culture, mais à ne pas participer à la culture qui est autour de nous. Notre caractère doit être ancré en Christ, comme ses ambassadeurs. Si on est ambassadeur de Christ, on le représente lui. Quand les premiers colons, ils sont partis dans ces nouvelles terres, hein, où ils ont trouvé, par exemple, les Espagnols qui ont trouvé l'Amérique du Sud et tout ça, ils avaient avec eux tout plein d'objets, de la nourriture, qui représentait la culture de laquelle ils venaient, parce qu'ils devaient arriver quelque part, puis pouvoir dire, voilà qui nous sommes. Voilà ce qu'on apporte, voilà ce qui vient de chez nous. Et cette idée d'ambassadeur, c'est vraiment une idée de présentation de là d'où on vient. Mais si quand on est dans la culture, on agit comme eux, ils vont se dire, non, t'es de chez nous en fait. Tu représentes un autre truc, mais t'es pas, tu dis que tu viens d'ailleurs, mais t'es de chez nous. Et je crois que dans cette idée de ne pas s'arrêter selon le conseil des méchants, la voix des pécheurs, ne pas s'asseoir sur la compagnie des moqueurs, c'est un appel à grandir dans notre caractère en Christ. Verset 2. « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. » Et je vais lire le verset 3. « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Donc ma question, c'est ça. Combien de temps est-ce qu'on passe dans la parole ? Ici, il nous appelle à méditer jour et nuit. C'est incessant, quoi. C'est tous les jours, toutes les nuits, tous les jours, toutes les nuits. Ça parle de la loi de l'Éternel. Alors, je crois qu'on est sorti des 10 commandements, puisque Jésus lui-même va beaucoup plus loin que ça, alors qu'il enseigne dans le serment sur le mont. Je crois que la Bible en entier est un outil de méditation de la loi de l'Éternel dans lequel on va grandir. Et l'idée de méditation, on n'est pas dans le récitement de chakras et de mantras qui fait Ça, c'est une idée de méditation qui est très New Age. Je crois que la méditation chrétienne aujourd'hui, c'est fixer ses yeux sur la vérité et parler cette vérité à nos cœurs alors qu'on la médite. C'est de se permettre de presser la vérité de la parole aussi profonde de nos cœurs jusqu'à ce qu'elle prenne feu, pour qu'il y ait une transformation. Les étudiants parlent de la transformation qu'ils ont vécue pendant ces 3 mois. Je crois qu'on doit tous la vivre alors qu'on passe du temps à méditer la parole. Et moi, j'aime tellement la promesse qu'il y a ici, en fait. Il nous parle d'un arbre qui est vert toute l'année. Il ne nous parle pas d'un arbre qui a plus de feuilles parce qu'il y a une pandémie. Il y aura des fruits en sa saison, mais l'arbre reste vert toute l'année. Le feuillage ne se flétrit point. Il est planté près d'un cours d'eau. Et ce cours d'eau, il coule. Et moi, j'ai été défié par ce message. Parce que parfois, lire la Bible, c'est tellement facile de la lire parce qu'on la lit comme un... C'est presque un rituel, en fait. Il faut que je lise ma Bible ce matin. Il faut que je la lise. Alors, comme une des étudiantes l'a dit tout à l'heure, hein, on ne lit pas la Bible pour Dieu, on lit la Bible avec Dieu. Il nous invite à marcher avec lui. Ce que je trouve incroyable dans l'idée de commandement, c'est que Dieu n'a pas fait les 10 demandes. Il a fait les 10 commandements. Dans l'idée de commandement, il y a le mot comme, communication, communauté. Dieu, dans les 10 commandements, le fait avec nous. Il fait une demande, c'est ce Dieu qui est éloigné, c'est ce Dieu qui demande un truc dans lequel il n'y a pas de relation. Mais dans l'idée d'un commandement, il y a un Dieu qui marche avec nous, qui le fait avec nous. Et moi, je suis défié encore et encore à comment est-ce que je lis ma Bible, comment est-ce que je la médite, est-ce que le dernier truc que je fais le soir, c'est un film, est-ce que le dernier truc que je fais le soir, c'est de revenir sur un truc que j'ai lu le matin dans la Bible et de continuer de poser des questions. Il y avait un outil qu'on m'a donné qui marchait bien en anglais, en fait, qui marche moins bien en français. Quand je suis arrivé à GEM, c'était SOAP, S-O-A-P. Donc le S pour Scriptures, qui est l'écriture en fait. On lit des versets ou un chapitre. O, observation. A, application. et P pour prière. Ça marche presque en français. Et simplement écrire les choses. Un journal, j'écris quelque chose, un verset sur le chapitre que j'ai lu. Quelles sont les observations que je fais là-dessus? Comment est-ce que je l'applique dans ma vie? Et comment est-ce que je prie cette chose pour que ça soit, cette application devienne réelle, pour que je presse cette vérité dans mon cœur, pour qu'il y ait une transformation en moi et que Dieu puisse accomplir sa promesse d'un arbre qui reste vert. Est-ce que l'Église d'aujourd'hui, elle n'est pas appelée à être un jardin d'arbres qui reste vert toute l'année, qui partage l'espérance, qui partage l'espoir, qui partage cet amour, qui partage, je ne sais pas, tout ce qu'on a donné avec nos dons, nos passions, mais qui partage le caractère de Christ pour la société. Un dernier verset que j'ai lu dernièrement dans Deutéronome qui m'a beaucoup défié, parce qu'en fait, dans Deutéronome, Dieu parle de son cœur de père. Alors déjà, là, j'étais défié. C'est Deutéronome 5, versets 28 et 29. L'Éternel entendit les paroles... Alors là, j'ai imprimé une version bizarre. Que vous m'adressâtes. Et l'Éternel me dit, j'ai entendu les paroles que ce peuple t'a adressées. Tout ce qu'ils t'ont dit est bien. Donc ça, c'est le peuple de Dieu qui revient vers Moïse et qui dit ce qu'ils ont envie de faire et comment ils ont envie d'appliquer justement les commandements de Dieu. Et Dieu dit ça. « Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer mes commandements, afin qu'ils soient heureux à jamais, eux, mes enfants. » Et je crois que Dieu a ce cœur pour qu'on le craigne. Dieu a ce cœur pour qu'on le craigne. Notre Père a un cœur pour qu'on le craigne, pour qu'on soit béni, pour qu'on puisse être une bénédiction pour les gens autour de nous. Et aujourd'hui, plus que jamais, notre Église, et quand je dis notre Église, ce n'est pas juste notre Église de réveil à la Chaux-de-Fonds. C'est beaucoup plus large. Appelons ça l'Église, je crois, doit se positionner pour être une bénédiction, pour montrer l'espoir. Les gens doivent voir qu'au milieu d'un hiver, nos feuilles sont vertes et sont capables de porter du fruit. Et les gens doivent pouvoir venir et dire, je ne vois pas d'eau. Tu vas chercher l'eau où? Pour ne pas avoir soif. Comment tu fais pour rester vert? Je crois vraiment qu'on doit être cet exemple aujourd'hui plus que jamais. On rentre pour moi dans un temps de crise économique, ça me semble très logique, où le désespoir va être de plus en plus fort, où les gens vont être pauvres, ils auront faim. Et puis, je crois qu'il va y avoir beaucoup plus de choses que ça, mais comme je ne suis pas ni devin et que je n'ai pas une parole, je vous laisse imaginer, vous, à quoi peut ressembler la société d'ici quelques années, si cet hiver est vraiment long. Et il faudra que les gens trouvent le pain de vie. Et est-ce qu'il y a un meilleur moment pour les gens qui se tournent à Dieu alors qu'ils sont désespérés? De nouveau, notre ami Tom Bloomer, hein, on parlait d'un réveil sur l'Europe. Et il disait, moi je ne crois pas à un réveil sur l'Europe. Priez pour une crise économique, afin que les gens soient tellement désespérés qu'ils doivent se tourner vers Dieu. Alors, c'est peut-être un petit peu radical, mais c'est défiant. Et finalement, on n'a même plus besoin de prier pour, elle est déjà là. Mais je crois qu'une fois que les gens sont vraiment à genoux, ils sont prêts à crier à Dieu. Si vous avez déjà lu dans 1 Samuel 7, les Israélites ont perdu l'arche et pendant 20 ans, l'arche n'est plus là. Il n'y a plus la présence de Dieu. Et le chapitre 7 du premier livre de Samuel commence par dire « Quand toute la communauté d'Israël était fatiguée de ne plus avoir la présence, ils se sont mis à crier à Dieu ensemble. » Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est là que Dieu est revenu. Et moi, j'ai l'impression que Dieu, il attendait que ce temps vienne où les gens, ils en ont tellement marre, ils en peuvent tellement plus, qu'il n'y a plus que Dieu qui peut les sauver. Ils ont tout essayé. On a encore essayé la force humaine de nos banques. On est encore en train d'essayer. On est encore en train d'essayer plein de choses qui vont nous sauver, le vaccin. Peut-être ça va s'arrêter. Et la prochaine pandémie, qu'est-ce que ce sera? Est-ce qu'il est temps qu'on soit prêt à donner à manger autant de nous? Est-ce que c'est temps que notre arbre soit vert pendant une longue saison d'hiver qui porte son fruit en sa saison où les gens peuvent venir et être nourris? C'était mon exhortation d'aujourd'hui. Je vais prier. Seigneur, moi, je te remercie parce que tu ne nous as pas appelés à nous morfondre. Tu ne nous as pas appelés à être découragés. Tu nous appelles à être forts, à trouver notre force dans ton courant d'eau. Tu nous appelles à être verdoyants, à porter du fruit. Et Seigneur, je te prie que tu nous aides à faire l'effort, tu nous donnes la grâce de faire l'effort de te chercher. Et comme tu le dis dans ta parole, quand vous me chercherez de tout votre cœur, vous me trouverez, je vous répondrai. Et Seigneur, aide-nous à te chercher. Aide-nous à méditer ta parole, tes commandements, ta loi, pour que nous puissions être le peuple que tu veux qu'on soit, pour que nous puissions être le peuple d'enfants, de tes enfants. Seigneur, je te remercie parce que tu veux, dans cette saison, plus que jamais, toucher les gens qui sont autour de nous, leur donner ton espoir, leur donner ta croix. Et toi, Jésus, qui est venu comme ambassadeur des cieux sur terre, alors que tu étais dans ton royaume bien plus confortable qu'ici en bas, tu n'as pas fait le choix de rester, tu as décidé de venir. Aide-nous à faire ce choix d'être tes ambassadeurs aujourd'hui, comme toi tu as fait le choix d'être l'ambassadeur des cieux. Amen.